BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans La France a tout pour réussir. Chaque week-end, chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et au sommaire ce week-end, eh bien, une nouvelle licorne française. C'est la 12e, c'est Alan. Alan qui, depuis 5 ans, révolutionne le marché de la complémentaire santé pour les indépendants et pour les petites et moyennes entreprises. Alan vient de lever 185 millions d'euros, ce qui va lui permettre notamment de poursuivre son développement en Europe. Une autre licorne française voit de plus en plus grand, c'est Blablacar qui elle aussi vient de réaliser une nouvelle levée de fonds, 115 millions de dollars. La prochaine étape, ce sera sans doute l'entrée en bourse pour le champion français du covoiturage et du déplacement en bus. Enfin, nous parlerons de Ma Ville, Mon Shopping, dispositif du groupe La Poste pour aider les commerçants à opérer, comme l'on dit, leur transformation digitale. Ça s'est souvent révélé vital pendant les différents confinements. Alors avec nous en studio pour en parler, Thierry Chardy, directeur général de Ma Ville, Mon Shopping. Et puis en duplex de Caluire dans le Rhône, Romélie Fragne, une commerçante qui a bénéficié de ce dispositif Ma Ville, Mon Shopping. Et de 12, donc depuis cette semaine, la France compte donc 12 licornes, ces entreprises valorisées plus d'un milliard de dollars. Et notre 12e licorne, eh bien c'est Alan qui vient de lever 185 millions d'euros, après déjà 50 millions levés en 2020. Alan, c'est une complémentaire santé proposée aux indépendants et aux salariés des petites et moyennes entreprises. La start-up revendique à l'heure actuelle un peu moins de 9500 entreprises clientes et 155 000 personnes assurées. Jean-Charles Samuelian, qui est le président et cofondateur d'Alan, était l'invité d'Edwige Chevrier lundi dernier sur BFM Business.
C'est toujours une belle étape pour l'équipe, mais ce qui compte pour nous, c'est vraiment à quel point on veut transformer le système de santé, à quel point on peut être là pour des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions de personnes. Et bien sûr, ce tour de financement, ces 185 millions d'euros, nous aide à accélérer, nous aide à recruter, nous aide à essayer d'atteindre 1 million de membres en Europe d'ici 3 ans. Donc oui, c'est excitant parce que ça nous donne le pouvoir de recruter 400 personnes, d'investir et de nous différencier. Aujourd'hui, on a 85% de nos remboursements qui sont en moins d'une heure. On couvre à la fois les indépendants et les entreprises. On a des entreprises de 0 salarié à plus de 5000. Donc c'est vraiment tout type d'entreprise, tout secteur, toute industrie. Et en plus d'être une assurance santé simple, extrêmement rapide à rembourser, qui aussi avec un super rapport qualité-prix, que grâce à la technologie, on peut réduire les coûts dans le temps, on ajoute aussi énormément de services. Des services de prévention, par exemple, si vous n'êtes pas allé chez le dentiste depuis plus d'un an, on va vous dire où aller faire un check-up autour de chez vous si vous avez envie. Des services quasiment d'accompagnement, vous pouvez chatter avec des médecins, chatter avec des sages-femmes, chatter avec une équipe médicale qui vous permet de vous guider. On vous aide à trouver les bons médecins et savoir combien ils vont être remboursés avant. On a aussi beaucoup poussé sur les sujets de santé mentale. On était les premiers à rembourser les applications de méditation. On donne accès à...
Ça, c'est parce que vous êtes branchés, c'est pour ça, non?
Oui, mais on pense que c'est important. Mais en effet, on est aussi un peu branchés. Et on a aussi mis une hotline psychologique dans l'app. Donc l'idée, vraiment, c'est d'être cette super app qui va de... J'ai besoin d'une information et j'ai pas envie de finir sur un moteur de recherche où je vais penser que je vais mourir dans 5 minutes, à... je gère mes soins et je suis remboursé, et le tout de manière unifiée, extraordinaire. Et ça, on le fait en France. On couvre 160 000 personnes. On le fait en Espagne et en Belgique, qu'on vient de lancer.
L'Allemagne, tiens, c'est pour quand?
Pas pour 2021, mais on est en train de regarder quel pays nouveau pays on lancera en 2022. Ouais. Parce que si on continue sur cette tendance, on va lancer un ou deux nouveaux pays entre 2022 et 2023.
Voilà, il se trouve que notre invité avec qui on va parler dans quelques instants de Ma Ville, Mon Shopping, Thierry Chardy, vous utilisez d'ailleurs les services d'Alan, vous en êtes satisfait?
Tout à fait, nous sommes passés chez Alan en début d'année et tout se passe très bien, les salariés en sont très contents, les remboursements
sont à temps,
tout est très simple, surtout dans l'application, donc non, vraiment, moi je recommande en tout cas.
Merci, et je précise que Alan, pour son développement, envisage de plus que doubler ses effectifs dès cette année, 400 embauches donc prévues à la fois en France et en Europe. Voici à présent une autre licorne depuis plus de 5 ans, c'est Blablacar. Cette semaine, l'entreprise de covoiturage et de transport par bus a levé 115 millions de dollars. On dit que la prochaine étape désormais, eh bien, ce sera l'entrée en bourse, mais sans doute pas avant 2022. En tout cas, Nicolas Brusson, le directeur général de Blablacar, lui, il y pense déjà. On va l'écouter sur ce sujet dans quelques instants, mais il revient tout d'abord sur le bilan 2020 de son entreprise. Alors, en recul, certes, mais beaucoup moins que pour les autres acteurs du transport. C'était cette semaine dans Good Morning Business.
Nous, on est passé de 70 millions de passagers à 50. Donc, on a fait moins 30%. Donc, dans l'absolu, ouais, terrible.
C'est la cata. Mais quand on se compare, on se rassure.
Et puis surtout, ce que ça veut dire, c'est qu'on a gagné des parts de marché par rapport à l'aérien, par rapport au ferroviaire, par rapport au bus, dans quasiment tous les marchés, et ça, principalement en Europe.
Ça, c'est dans le covoiturage que vous avez gagné des parts de marché relatives, ou aussi dans le transport par car?
Alors, c'est les deux. Donc, en fait, c'est le covoiturage de manière globale. Pourquoi ? Parce que le réseau de covoiturage est beaucoup plus flexible, beaucoup plus agile. Il n'y a pas de coût fixe. Ouais. Le réseau se remet en place naturellement. On n'a pas besoin de décider si les gens vont faire du Paris-Lyon ou vont aller à la campagne. Ça se fait de manière... Enfin, l'intelligence collective, en fait, fait ça. Et sur les pays hors Europe, accélération de l'autocar, parce qu'il y a eu une accélération des réservations en ligne. Donc, il faut comprendre, juste très rapidement, qu'au Brésil, en Russie, dans tous ces pays, 90% des réservations d'autocars, qui sont des très grands marchés, se font en fait au guichet. Et une partie de l'histoire Covid, c'est cette accélération du online. C'est-à-dire qu'on fait tout en ligne, on réserve tout en ligne, le e-commerce, etc. Et le transport aussi.
Et ça, c'est bon pour vous, évidemment.
Et nous, c'est ce qu'on observe. Donc en fait, aujourd'hui, on est sur des croissances positives par rapport à 2019 dans ces marchés sur le bus. Pas parce que les gens voyagent plus en bus, mais parce que les gens réservent plus en ligne. Il y a vraiment eu deux temps dans cette crise. Il y a eu le temps, j'ai envie de dire, de mars 2020, où tout s'est arrêté, jusqu'à en gros novembre. Et ensuite, en novembre, il s'est passé deux choses. Le vaccin, évidemment, qui d'un coup donne une idée
perspective.
De perspective, on voit la fin du tunnel, et l'IPO d'Airbnb. Et Airbnb a toujours été le cousin de BlaBlaCar. On est sur l'économie du partage, on est sur des modèles communautaires très très similaires, des valeurs de marque très similaires. Et Airbnb a fait une IPO fantastique sur des valorisations, on peut dire, je pense, très bonnes.
Alors que, comme vous le disiez, c'était pas une bonne année pour Airbnb.
Non, mais c'est exactement la même histoire. Ils ont fait bien mieux que tous les autres, parce qu'il y a cette flexibilité dans la plateforme, parce que leur inventaire s'est adapté à cette nouvelle demande, et donc ça s'adapte beaucoup plus vite.
L'introduction en bourse, vous y pensez quand vous vous rasez le matin quand même, non maintenant?
Oui, on y pense depuis le début. Ouais. En fait, la manière dont on réfléchit à ça, c'est on veut rester indépendant. Donc on veut rester indépendant le plus longtemps possible, voire toujours, et finalement ça veut dire un jour aller s'introduire en bourse. C'est pas ce qu'on est en train de faire en ce moment. Ensuite, est-ce que c'est la suite logique? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui les marchés boursiers sont plutôt ouverts pour la tech? Clairement, je pense qu'il y a une fenêtre qui est ouverte. Est-ce qu'elle sera encore ouverte en 2022 quand on réfléchira à ça? On verra.
Et après les licornes Alan et BlaBlaCar, on va parler d'une entreprise qui est en très bonne voie pour en devenir une, c'est Insect. Alors Insect, on vous en parle très souvent sur BFM Business, ce sont ces deux usines d'élevage d'insectes, l'une qui existe déjà dans le Jura et l'autre qui est en construction dans le département de la Somme. Usines qui produisent en masse des insectes pour l'alimentation des animaux et pour la fabrication d'engrais. Insect qui s'attaque à présent à l'alimentation humaine. Et pour aller sur ce terrain-là, eh bien l'entreprise française vient de racheter le néerlandais Protifarm. Antoine Hubert, le cofondateur d'Insect, était l'invité de Pauline Tadevin dans 60 minutes business.
Protifarm, c'est un acteur, un éleveur d'insectes comme nous, qui les transforme en ingrédients premium comme nous, avec une espèce de scarabée également comme nous, sauf qu'eux étaient orientés très alimentation humaine, quand nous on était très sur les animaux et les plantes, et on commençait à se lancer dans l'alimentation humaine, et avec eux on va pouvoir accélérer dans ce marché stratégique.
Oui, effectivement, vous changez de dimension là aussi, si je puis dire, parce que les perspectives sont gigantesques sur ce marché-là, Antoine Hubert.
Oui, tout à fait, ça va prendre du temps avec l'acceptation aussi des consommateurs, mais on a identifier eux comme nous, la nutrition sportive comme premier marché, la nutrition santé aussi, des personnes âgées qui sont plus en capacité de digérer des protéines, et demain, peut-être des produits au niveau substitut de viande ou autres qui viendront effectivement.
Vous mettez combien sur la table pour Protifarm, Antoine Hubert ?
Alors, on ne communique pas sur l'acquisition, sur ces montants. Par contre, ce qui est important de dire, c'est que les actionnaires de Protifarm maintiennent leur confiance et en fait deviennent actionnaires d'Insect. C'est un achat en action. Voilà.
D'accord,
donc, en fait,
c'est un
achat. Ils continuent de nous accompagner et donc, pour la première fois, on a des actionnaires aussi néerlandais, au-delà d'avoir une base de production, une équipe, on a aussi des actionnaires, donc ça renforce aussi notre réseau d'actionnaires dans notre développement.
Vous êtes toujours basé dans le Jura, Antoine Hubert ?
Alors aujourd'hui, finalement, on a deux sites de production, un dans le Jura, effectivement à Dole, et puis maintenant un à Hermelo aux Pays-Bas, et un troisième très grand en construction à Amiens, et avec nos activités, notre siège à Paris, notre centre de recherche à Évry.
J'ai lu que cette ferme, là, que vous êtes en train de faire construire du côté d'Amiens, c'était la plus grande ferme au monde de ce type, Antoine Hubert ? Ça représente quoi ?
On est sur près de 50 000 mètres carrés de bâtiment, donc c'est quand même un très grand bâtiment, jusqu'à plus de 35 mètres de haut, donc c'est la plus haute ferme verticale. La ferme verticale, c'est un concept qui se développe beaucoup en Asie, en Amérique, pour des plantes.
C'est-à-dire, racontez-nous.
On verticalise dans des bacs qui sont superposés et on fait pousser des insectes à l'intérieur. On automatise finalement une filière traditionnelle comme l'élevage de vers à soie qui est millénaire, et au lieu de faire à la main, on va faire ça tout de manière automatisée et beaucoup plus verticalisée.
200 salariés, c'est ça pour l'instant?
l'ambition, on dépasse maintenant les 200 salariés et on dépassera donc les 300 début 2022 avec l'ensemble des recrutements sur Amiens.
Les prochaines étapes, c'est quoi?
C'est le démarrage à Amiens dans quelques mois.
On a une idée, vous avez un.
C'est ah bon, on démarre toute fin d'année, début d'année prochaine, tout là, le site de production sur Amiens. Et puis, c'est continuer à se développer aux Pays-Bas. Et c'est surtout cette année, là, finaliser une implantation aux États-Unis.
Et pour celles et ceux qui ne sont pas encore prêts, j'en fais partie d'ailleurs, à se nourrir d'insectes, et bien il nous reste les restaurants. En tout cas, quand ils rouvriront, on nous parle, vous le savez, d'une réouverture sans doute des terrasses à la mi-mai, juste après le pont de l'Ascension. On croise les doigts. Et au resto, en tout cas, souvent, et bien un des points faibles, c'est le temps d'attente pour payer l'addition. C'est aussi le cas, vous le savez, à la caisse des supermarchés. D'où le concept développé par la start-up Sunday. Payer avec son smartphone, juste après avoir scanné le QR code qui vous transmet la facture. Ce QR code que de plus en plus d'établissements mettent déjà sur la table pour télécharger la carte ou les menus. Sunday, pour développer son système, vient de lever 20 millions d'euros. Son cofondateur, vous allez le voir, le très vendeur Victor Luger, est venu en parler à Sandra Gandoin et Christophe Jacubizine dans Good Morning Business.
Sunday, c'est le moyen le plus rapide au monde de payer au restaurant. Vous avez tous vécu ce moment où on est là en train de discuter et on se fait une crampe à l'épaule pour demander l'addition, 5 minutes. Pour attendre la machine, 5 autres minutes, et demander une note, encore 5 minutes. Aujourd'hui, vous prenez votre téléphone, vous scannez un petit QR code sur la table, et la première chose qui s'affiche sur votre écran, sans créer un compte, sans télécharger une app, c'est votre addition. Vous appuyez une fois sur votre écran pour laisser du pourboire, une deuxième fois sur le bouton paye, payez 7 secondes, vous vous levez et vous partez. Les restaurateurs gagnent 15 minutes par table. Les serveurs ont 40% de pourboire en plus. C'est ce qu'on a constaté sur plus de 100 000 tables, sur plus de 500 000 clients.
Et où vous l'avez expérimenté du coup?
En province, à Paris, à Londres, à Madrid, dans des restos qui pour certains sont assez chics, qui dans d'autres vendent des pizzas à 10 euros. Tout le monde adopte ce système de manière extraordinairement intuitive. Tenez-vous bien, depuis la réouverture en Angleterre cette semaine, c'est 95% des paiements qui sont faits comme ça.
Mais c'est énorme. 94% des transactions se font via ça.
Alors, pas de tous les réseaux, des restaurants où on l'a...
Où on l'a adopté. Ah oui, c'est ça. Et on paye comment? On paye par carte? On paye par Apple Pay quand on a un iPhone? Ou par Google Pay? Je sais pas comment ça s'appelle.
C'est ça la beauté du système. C'est que vous payez avec vos tickets restaurant sur, et votre carte ticket restaurant sur votre téléphone.
D'accord.
Vous payez avec votre CB, vous payez avec votre Amex.
Tout ça est connecté sur le smartphone,
bien
avec
sûr,
votre appli.
Vous payez évidemment avec les différents wallets, que ce soit Apple Pay, Google Pay, si vous êtes chinois, c'est Alipay, etc. Le but, c'est que n'importe qui puisse payer en moins de 10 secondes.
Et donc le but, c'est que tous les restaurants français soient équipés quoi, d'ici la fin de l'année? Vous espérez quel pourcentage?
On se lance aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne et en France.
Et en France, alors que c'est pas en
France. Et on va déployer dans des milliers de restaurants sur ces deux continents. Ouais.
Et votre pari, c'est que d'ici 2-3 ans, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui ne paieront que via un QR code?
Tenez-vous bien, ça fait... Il n'y a plus beaucoup de monde dans les guichets SNCF. Ça fait 10 ans qu'on achète des tickets de train. On commande aujourd'hui un taxi avec son téléphone. Mmh. On se fait livrer de la nourriture et ses courses chez soi avec son téléphone. Mmh. Je pense que dans 3 ans, le monde entier paye au restaurant avec son téléphone.
Vous avez des concurrents déjà dans le domaine?
Pas que je sache. Vous avez déjà vu ça au restaurant?
Non, mais non.
Voilà, je vous l'avais dit, c'est un excellent vendeur, Victor Luger, le fondateur, le cofondateur de la solution Sunday, solution très tentante. On verra si elle se généralise ou pas d'ici les prochains mois ou les prochaines années. Et avant de parler avec nos invités du dispositif Ma Ville, Mon Shopping, encore une bonne nouvelle qui montre bien que la reprise devrait être forte grâce notamment à la consommation. Cette bonne nouvelle vient du secteur de la distribution où les perspectives d'embauche sont très fortes. Pierre Kupferman est venu en parler cette semaine à Edwige Chevrillon sur le plateau du Grand Journal de l'Économie.
Et je vous propose de regarder plutôt qui arrive en tête en fonction du nombre d'offres réellement publiées sur les sites de recrutement. Ouais. Au moment où je vous parle, celui qui tient la tête, c'est Leclerc, avec près de 4000 offres devant Amazon, donc. Lidl, qui ne fait pas de grandes annonces sur le sujet, fait mieux en termes de petites annonces, justement, que Carrefour ou Auchan. Et puis, au total, sachez qu'on a 14 000 postes à pourvoir en ce moment, rien que c'est chez ces 7 géants de la grande distribution.
Parmi les anciens spécialisés, qui sont les plus gros recruteurs? Parce que là, c'est les grandes distributions, anciens spécialisés.
Alors, pour le moment, si on s'en tient aux offres d'emploi mises en ligne, IKEA n'arrive pas en tête. Le champion, c'est Decathlon, suivi par Intersport. Alors, on savait que les vélos se vendaient très bien en ce moment, mais ça va au-delà. Les experts tapent sur une croissance soutenue des ventes de matériel et d'équipements sportifs, et ça se voit. Tout comme d'ailleurs pour le bricolage, qui a bien tiré son épingle du jeu l'année dernière. Et donc, Leroy Merlin et Castorama arrivent respectivement en troisième et quatrième position des groupes qui recrutent le plus en ce moment, devant donc Fnac, Darty, Conforama et Ikea.
Et on va à présent poursuivre notre mise en avant des initiatives pour soutenir le commerce local. La semaine dernière, on mettait en avant la Banque des Territoires. Et bien cette semaine, place à Ma Ville Mon Shopping. Thierry Chardy, bonjour. Rebonjour.
Rebonjour.
Vous êtes le directeur général de Ma Ville Mon Shopping, qui est une plateforme de services aux commerçants et aux artisans et qui fait partie du groupe La Poste. Tout d'abord, c'est quoi le concept? C'est quoi les services que vous proposez à ces artisans via et ces commerçants via Ma Ville Mon Shopping?
Ma Ville Mon Shopping, en fait, c'est une solution web qui va permettre à tous les consommateurs de pouvoir acheter via le web dans leur ville. L'idée, c'est de proposer à tous les commerçants, artisans, producteurs de mettre en place très facilement des services de click and collect ou de livraison sur leur territoire pour satisfaire leurs clients.
Et ces services-là, donc, ils en ont eu encore plus besoin lors des différents confinements. Beaucoup de ces commerces ont été jugés non essentiels. Ça a été vraiment un vrai plus pour eux de proposer cette numérisation et donc cet autre contact avec leur clientèle.
Oui, alors c'est vrai que c'est une tendance de fond. Ça fait longtemps qu'on parle de la transition digitale des commerçants, des artisans, des producteurs. Et c'est vrai que cette année 2020 et cette période de Covid où beaucoup d'entre eux ont été fermés, a nécessité pour eux, pour beaucoup d'entre eux, la nécessité de passer au e-commerce. Et effectivement, nous avons essayé d'en accompagner le maximum dans cette transition-là.
Alors, ça coûte combien pour les commerçants? Est-ce qu'il y a des frais d'inscription, des frais d'abonnement? Est-ce que vous prélevez une commission sur les ventes? C'est quoi le modèle économique de Ma Ville Mon Shopping?
Donc effectivement, alors nous, notre but, effectivement, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment d'accompagner tout le monde. Donc il n'y a pas de frais à l'inscription, il n'y a pas de frais d'abonnement non plus pour le commerçant. Effectivement, on se rémunère sur des commissions sur les commerçants. Et après, on travaille aussi en collaboration avec des collectivités territoriales ou des chambres de commerce ou des chambres des métiers qui vont également financer l'installation de la solution et l'accompagnement des commerçants et des artisans sur le territoire.
Et c'est essentiellement ces collectivités ou ces chambres de commerce qui en fait prépayent le système et qui ensuite le redistribuent à leurs commerçants. C'est bien cela. Grosso modo, souvent, c'est ça.
Oui, grosso modo, on peut dire ça comme ça, mais si vous voulez, en fait, dans la digitalisation aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'il y a des niveaux de maturité qui sont très différents chez les commerçants, les artisans, et qu'ils ont souvent besoin d'un vrai accompagnement. Donc nous, on offre cet accompagnement, donc effectivement qui est payé, et les chambres de commerce et les chambres de métiers aussi sont là pour accompagner justement tous ces commerçants et tous ces artisans dans leur digitalisation.
Vous parlez d'une commission, de quel ordre, quel pourcentage sur
Alors,
chaque vente?
Ça va dépendre, mais quand on est en partenariat avec les territoires, la commission elle est de 5,5%.
Voilà. On va avoir une carte à présent, la carte de votre implantation. Quels sont les départements, quelles sont les villes qui ont été le plus séduits par le dispositif? On voit sur cette carte qui va être à l'écran dans quelques instants, c'est essentiellement dans le quart nord-ouest.
Hein. Dans le quart nord-ouest, oui. Alors on travaille beaucoup effectivement alors sur la Loire-Atlantique, on travaille sur toute la Normandie, on travaille également dans les Deux-Sèvres, en Gironde. Donc nous sommes installés à Bordeaux, donc on travaille aussi en Gironde, on travaille sur l'Allier, on travaille aujourd'hui dans 3800... Avec 3800 collectivités, on accompagne un peu plus de 14 000 commerçants dans leur digitalisation.
Alors, je le disais, donc ça fait partie du giron du groupe La Poste. Vous êtes une filiale de ce groupe, mais ce n'était pas le cas à l'origine. Racontez-nous un peu l'historique et la genèse de Ma Ville Mon Shopping. C'était d'abord, je crois que vous venez d'une agence web et vous avez d'abord créé une plateforme qui s'appelait eCity. Racontez-nous en quelques mots l'évolution et l'intégration dans le groupe La Poste.
Effectivement, en fait, moi je viens du web, effectivement, et donc on construisait pas mal de sites, effectivement, pour des commerçants, des artisans. Ben en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le site, c'est aussi que le démarrage, en fait. Derrière, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut le faire évoluer, il faut le faire connaître, etc. Donc, petit à petit, on s'est dit, est-ce que ça serait pas intéressant d'essayer d'accompagner toute cette transformation-là de manière globale, puisque effectivement, on vit une vraie transformation numérique, et l'objet, il était de dire, il faut que cette transformation profite au plus grand nombre. Donc, on a décidé de faire cette plateforme, et on a assez vite rencontré le groupe La Poste, avec qui on a partagé les mêmes
les mêmes valeurs et ces mêmes valeurs aujourd'hui territoriales, on va dire, et de faire profiter des services au plus grand nombre. Et du coup, ça a plutôt bien matché et on est parti avec eux fin 2018 et la solution est devenue Mahune-Mont Shopping. Et aujourd'hui, effectivement, on est filiale du groupe avec cette ambition d'accompagner le maximum de monde et le maximum de territoires pour que...
Parce qu'ils ont un vrai maillage territorial, en fait. C'est aussi un des points forts de ce partenariat, c'est l'implantation locale de la poste, puisque une partie de la récupération des colis et des objets se fait via les facteurs.
Ouais, tout à fait. En fait, donc la poste effectivement est très implantée territorialement, et nous on travaille sur la logistique effectivement avec les facteurs, avec une logistique qu'on a essayé de construire pour faciliter aussi la vie du commerçant. Donc en fait, on lui enlève le fait de faire un colis, et c'est effectivement le facteur qui vient, qui récupère directement le produit et qui vous le livre. Parce que l'objet, c'est quand même avant tout d'acheter localement. Et donc, on s'est dit, si vous achetez localement, essayons d'éviter de faire des cartons, de faire des colis, etc.
On va voir si ça fonctionne bien auprès, justement, d'une commerçante au niveau local. Nous sommes en duplex de Caluire dans le Rhône avec Romélie Fragne. Bonjour Romélie.
Bonjour.
Vous êtes commerçante et vous êtes donc à la tête d'une boutique. On aperçoit derrière vous, pour ceux qui nous suivent en télé, bien sûr. Donc, une boutique à la fois de prêt-à-porter femmes et hommes, mais aussi un concept store. Et vous avez donc bénéficié depuis quelques mois, je crois depuis le mois de novembre, de ce dispositif Ma Ville, Mon Shopping. Racontez-nous comment ça s'est passé et surtout quels bénéfices vous en tirez.
Alors nous, Ma Ville, Mon Shopping, on a mis pied à l'étrier grâce à la ville de Caluire et à son équipe qui ont proposé, pour aider les commerçants à tenir le cap en novembre lors du deuxième confinement, ils ont mis en place une opération. Ils offraient à chaque caluirard un bon d'achat de 15 euros quand ils dépensaient 30 euros dans un commerce de la ville. Donc ça a été une opération très forte. Le maire, il a mis une grosse enveloppe sur la table pour soutenir ses commerces et ça a très très bien fonctionné. Donc tous les commerces qui étaient fermés, même ceux qui étaient ouverts, ont pu en bénéficier. Donc ça a vraiment généré du trafic dans nos boutiques en click and collect. Et du coup, c'est grâce à cette opération-là qu'on a connu Ma Ville, Mon Shopping. Donc du coup, on est rentré dans le processus de créer un compte, enregistrer les produits. Voilà, la poste nous a bien aidés parce que du coup, pour le retrait des colis, c'est vrai que c'est ultra facile, c'est très pratique. Et c'est grâce à ça qu'on a mis le pied à l'étrier à Ma Ville, Mon Shopping.
Et est-ce que ça a fonctionné en termes de volume? J'imagine qu'on est évidemment loin de la compensation du 100% du chiffre d'affaires.
On est très très loin du compte, mais du coup, ça fait quand même rentrer de la trésorerie. On peut pas abandonner ça. C'est vraiment une aide. Ça bouche des trous, ça paye une partie du loyer, ça paye l'électricité, ça paye pas tout, mais ça nous a vraiment aidés. Et au-delà du soutien financier, ça nous a aidés psychologiquement. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on était très aidés par la ville, très soutenus par nos clients qui ont joué le jeu dès qu'ils ont reçu. Donc ça, nous, ça s'est manifesté par des flyers, en fait, qui a été distribué dans les boîtes aux lettres. Et les commerçants étaient très contents, mais les clients étaient très réceptifs et ont tout de suite joué le jeu. Donc ils nous ont téléphoné quand ils savaient pas faire, ou alors ils ont téléphoné sur le site de Ma Ville, Mon Shopping. Et tout le monde, les uns les autres, on s'est tous entraidés pour mettre en place ça, et ça a très bien marché.
Et ça représente combien de votre chiffre d'affaires, on va dire, habituel, normal?
Un petit 10%.
Petit 10%, mais voilà.
C'est pas énorme. Mais bon, c'est important. Du moins, c'est vraiment, voilà, ça a permis de payer une partie du loyer. C'est vraiment important pour nous.
Et on parlait de l'accompagnement, donc, à la fois sur le numérique, sur la mise en place des outils numériques, de l'accompagnement sur la logistique. Est-ce que ces deux types d'accompagnement, vous les avez vraiment eus et vous ont été vraiment utiles pour mettre en place ce dispositif?
Nous, avant, on n'avait rien du tout. Donc, on n'avait pas de site internet, on n'avait pas Ma Ville, Mon Shopping. Donc, ça a été vraiment une création de A à Z. Donc, Ma Ville, Mon Shopping, le site est vraiment facile. Donc, on s'y est vite pris au jeu pour mettre un max de produits pour pouvoir générer du chiffre d'affaires dans notre boutique. Après, du coup, l'élan de solidarité que ça a créé a fait qu'un de nos clients nous a offert notre site internet. Donc, il l'a créé. Il nous a aidé à mettre en place les produits. Au jour d'aujourd'hui, on continue ça grâce à des amis qui nous donnent la main et grâce à Anaël, notre stagiaire qui est là à côté de moi et qui m'aide. Donc, oui, ça a vraiment... apporter du plus à l'entreprise, ça nous a fait évoluer et on l'aurait peut-être pas mis en place tout de suite si on n'avait pas eu finalement le confinement en novembre. Et donc grâce à Ma Ville, Mon Shopping, on évolue sur le numérique.
Et en quelques mots, donc Romélie, on est le week-end du 24-25 avril, on a annoncé jeudi une réouverture de certains commerces, alors vous ne savez pas encore si vous serez concerné. C'est quoi les perspectives pour vous, pour votre magasin dans les prochaines semaines?
Alors nous, on espère vraiment réouvrir le 10. Voilà, si
c'est un combat que mènent les commerçants de France.
On espère vraiment réouvrir le 10. C'est très important pour nous. Après, le plus tôt sera le mieux. Un commerce, ça se doit d'être ouvert. On doit accueillir nos clients. Là, en ce moment, je suis à la boutique tous les jours pour essayer de sauver 2-3 ventes, accueillir quelques clients, faire de la vente sur le pas de porte. Mais bon, un commerce, c'est pas fait pour ça. Et si on veut tenir le choc, il faut vite qu'on réouvre.
Et si on veut tenir le choc, on peut aussi vous commander certains produits. Je précise qu'il y a une adresse internet. C'est donc ras-boutique.fr. ras-boutique.fr pour aller donc acheter les produits de Romilly Frein, que je remercie d'avoir été en duplex de Caluire dans la France à Tout pour Réussir. Un mot pour finir, donc Thierry Chardy, on a vu, voilà, ça fonctionne bien, que ce soit donc au niveau de communes, de départements. C'est un dispositif qui aide vraiment et ils en ont besoin. C'est ce que nous a rappelé à l'instant Romilly Frein, ils ont besoin de ce soutien.
Aujourd'hui, c'est vraiment important et nous, on va vraiment continuer. C'est vraiment quelque chose qu'on a fait par le passé et aujourd'hui, on a vraiment cette volonté d'accompagner un maximum de commerçants dans cette période qui est pas simple pour eux. Et si on peut vraiment les aider, en tout cas, on va tout mettre en œuvre pour réussir à le faire, que ce soit techniquement, que ce soit en essayant d'augmenter la notoriété aussi de la plateforme pour eux.
Et en un mot, il nous reste quelques secondes. Ma ville, mon shopping, c'est 24 salariés à l'heure actuelle. Je crois qu'il y a des perspectives assez fortes de croissance en termes d'emploi.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est ce que je disais. En fait, on va mettre tous les moyens pour réussir et pour accompagner tout le monde. Donc, on est en train effectivement de recruter, de doubler les effectifs pour pouvoir à la fois améliorer l'expérience du client, l'expérience du commerçant, et puis faire que ces prémices d'habitude deviennent des véritables habitudes chez le consommateur.
C'est sur cette note d'optimisme qu'on va conclure notre entretien. Merci beaucoup Thierry Chardy d'avoir été l'invité de la France à Tout pour Réussir. Et pour nous, pas de trêve du 1er mai. Le week-end prochain, on se retrouve pour un tout nouveau numéro de la France à Tout pour Réussir. On parlera notamment de la place de marché Yaka français qui propose uniquement des produits fabriqués en France et qui viendra souffler sa première bougie d'existence sur notre plateau. D'ici là donc, très belle semaine et très bon week-end sur BFM Business.
BFM Business, la France a tout pour réussir.